Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bienvenue à toutes et à tous. On reçoit aujourd'hui Jean-François Charrier. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur général d'Axipit REP, REP pour Real Estate Partners. Axipit REP, c'est un gestionnaire d'actifs immobiliers, bien sûr, agréé en mars 2021 et qui gère actuellement un peu plus de 150 millions d'euros. Et puis, on en parlera un peu plus tard, qui appartient à un groupe plus conséquent, Catella Group, un groupe qui agit au niveau européen. Mais on va commencer par une question, évidemment, d'actualité sur les marchés immobiliers. Alors, tout le monde espère une reprise, tant des transactions que des prix. Qui se sont donc effondrés l'un et l'autre en 2023. Est-ce que ce que vous observez du marché laisse à penser que cette reprise serait en train d'intervenir ou pas ?
Alors, effondré, c'est un grand mot,
en tout cas,
mais ce qui est sûr, c'est que certains ont qualifié 2023 comme une annus horribilis. Cette année devrait être celle, sinon, du redémarrage, au moins celle de la stabilisation, les volumes d'investissement. Ont baissé d'environ 60% toutes classes d'actifs confondues. Les prix, quant à eux, ont globalement tous corrigé, plus ou moins, même si cela n'a pas été uniforme selon les catégories immobilières et secteurs géographiques.
Oui, les bureaux ont plus corrigé que les autres, on va en reparler. Mais,
Absolument, et encore, ce sont des actifs qui ont corrigé différemment suivant les pays. Il y a des pays qui ont corrigé plus vite et plus fort que d'autres. Donc tout ça permet de saisir éventuellement, ou en tout cas est source d'opportunités. Et cette crise a d'abord été, je pense, financière plus qu'immobilière, et ça a provoqué, la hausse des taux d'intérêt a été très forte, et donc a provoqué consécutivement la baisse des volumes de crédit, la baisse des transactions, et enfin la baisse des prix. Et donc cette tendance est en passe avec la légère détente des taux d'intérêt de s'inverser. Alors c'est encore très léger.
Hein. C'est la question, parce qu'en fait tout le monde attend un signal de la baisse des taux. Là on est en phase de stabilisation. Cette baisse des taux, elle n'est toujours pas intervenue, mais est-ce que au moins au niveau, alors parlons pas des prix, mais est-ce qu'au niveau des transactions, il y a un petit frémissement, peut-être sur certaines classes d'actifs, sur les pays qui ont le plus corrigé, est-ce que vous le ressentez ?
Alors, on observe depuis quelque temps un retour, timide certes, hein, des investisseurs, et donc c'est plutôt signe positif qui laisse à penser, tout en restant prudent, qu'il y a un regain d'optimisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de difficultés sur les actifs importants, les gros actifs, où là, les transactions ne se font pas parce que les investisseurs ont peur de s'engager sur des actifs qui font 60, 100, 200 millions d'euros. En revanche, il y a un frémissement sur les actifs de plus petite taille.
Alors, les conséquences de la baisse, pour pas reprendre le terme effondrement des marchés immobiliers et des prix, c'est que les fonds immobiliers et les CPI en tête ont souffert, à la fois en termes de valorisation, donc une vague de baisse de prix qui a un peu, je dirais, figé le marché, notamment en termes de collecte, et qui pose aujourd'hui, pour certains acteurs de la gestion, et donc certains de leurs véhicules, des problématiques de liquidité. La collecte, je rappelle, elle a baissé d'environ 50% en 2023 par rapport à 2022. On pense que le premier trimestre 2024 va pas être très bon, même a priori, pas très bon du tout.
Oui.
Est-ce que ce marché des CPI, est-ce qu'il est en train de se recomposer ? Est-ce qu'il a un potentiel encore devant lui aujourd'hui ?
Alors, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable marché à deux vitesses. Vous avez les véhicules qui collectent et puis les autres. Bénéficier d'une collecte nette positive, c'est l'assurance de saisir les bonnes affaires qui se présentent. À l'inverse, certaines SCPI, pas toutes, heureusement, doivent faire face à des demandes de sortie des investisseurs relativement importantes, ce qui oblige à vendre des actifs et les empêcher, évidemment, à saisir les opportunités du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la collecte qu'ils réussissent à faire sert plus à rembourser ceux qui veulent sortir qu'à investir sur des actifs de qualité. Donc ça, c'est la première chose. L'autre difficulté, je pense, pour le marché, en tout cas pour certaines SCPI, c'est le stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir de stock, c'est avoir la certitude de pouvoir investir sans diluer la performance dans un portefeuille existant. Et puis c'est aussi l'assurance de ne pas avoir à engager des travaux importants pour mettre aux normes au goût du jour les actifs qu'on a achetés il y a 20 ou 30 ans. Voilà, donc il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les SCPI un peu plus récentes.
Bah, donc là, vous développez les arguments justement que développent habituellement ceux qui ont lancé des SCPI récemment sur le marché, ce qui est votre cas. Mm-hmm. Donc vous avez lancé, je rappelle, donc UPK en septembre dernier. Rappelez-nous rapidement son positionnement.
Alors nous avons opté volontairement pour une stratégie opportuniste. Ça veut dire que on a ouvert au maximum le spectre des possibilités d'investissement, ne rien s'interdire, ni d'un point de vue géographique, ni d'un point de vue sectoriel. Donc tout est bon à prendre à partir du moment où c'est une opportunité, une bonne affaire. J'ai coutume de dire que nous n'avons pas de conviction, enfin si, que nous avons une conviction, c'est que les convictions ne durent pas. Voilà. Et on s'est rendu compte très rapidement que depuis 20 ans, le marché a évolué dans le bureau, dans le commerce, dans la logistique, dans le résidentiel même, et donc s'enfermer dans une stratégie restrictive peut éventuellement poser des problèmes à terme. Donc nous souhaitons aujourd'hui pouvoir faire tout ce qui est possible de faire en termes d'investissement.
Toute classe active, tout secteur, toute zone géographique confondue.
Absolument. À la fois diversifié sur le plan sectoriel, mais évidemment diversifié sur le plan géographique, pour pouvoir justement, en fonction des marchés qui sont différents, hein, les marchés ont évolué différemment entre la France, l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne. Et donc, il y a aujourd'hui des opportunités sur chacun de ces territoires, mais pas forcément dans les mêmes classes d'actifs. Voilà.
D'accord. Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'à fin mars, UPK avait bouclé 4 acquisitions. D'abord, quelles sont ces acquisitions? Rappelez-nous simplement en termes de taille et de secteur d'appartenance. Et est-ce que d'autres investissements sont en cours et à quel niveau de rendement? Parce que c'est le sujet aujourd'hui.
C'est le sujet principal, effectivement. Oui, nous avons investi fin 2023 sur 4 actifs. En réalité, c'est 11 locaux, puisque l'un des actifs achetés en France disposait de 8 locaux commerciaux de pied d'immeuble. Donc ça, c'est un investissement en France. Nous avons fait également 2 investissements en Espagne et un quatrième investissement donc aux Pays-Bas, qui est un investissement mixte en bureaux et local d'activité. Le tout pour un taux acte en main moyen de 7,80. Et puis effectivement, nous sommes en cours d'acquisition de 2 actifs supplémentaires qui devraient signer pour le premier fin avril, on va dire début mai pour être sûr, qui est aux Pays-Bas, qui est un sell and lease back.
Dans quel secteur ?
C'est essentiellement de la santé.
D'accord.
Voilà. Et un autre actif, cette fois-ci en France, également sur la santé d'ailleurs, qui est également un sell and lease back, qui sera investi sur notamment des maisons médicales.
D'accord. Donc c'est un secteur d'ailleurs résilient, on l'a vu en 2023. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, pour investir, il faut du cash, donc de la collecte. Où en êtes-vous de ce point de vue ? Est-ce qu'elle est en phase avec vos attentes ?
Alors, je vous mentirais si je vous disais qu'elle était en phase avec nos attentes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un vrai succès lors du lancement. La SCPI a été plutôt bien accueillie par nos partenaires CGP. En revanche, très honnêtement, depuis le début de l'année, c'est un peu poussif. Alors, nous collectons, on collecte de plus en plus mois après mois, mais on n'est pas du tout dans les perspectives que nous avions imaginées lors du lancement à l'époque. Voilà, donc c'est à la fois satisfaisant parce que nous sommes en collecte positive et qu'on peut acheter, donc, mais c'est insatisfaisant par rapport à ce que l'on avait imaginé.
Alors, la stratégie de distribution est aussi importante, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques réseaux qui collectent de la SCPI, et puis il y a une sorte de remise en cause de certains réseaux de distribution, je pense notamment à ceux de l'assurance vie, où la gestion du passif est plus complexe pour les gestionnaires d'actifs. Est-ce que vous visez, dans votre stratégie de distribution, également les réseaux d'assurance ?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, on s'est obligé à ne travailler qu'avec des conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc la distribution la plus diluée possible. Et tant que nous n'aurons pas atteint un certain seuil de capitalisation, nous ne ferons pas appel à des gros investisseurs. Ça peut être des institutionnels, ça peut être évidemment des compagnies d'assurance. L'avantage des compagnies d'assurance, c'est qu'en règle générale, elles vendent ça en unité de compte de SCPI et que par conséquent, c'est également vendu à des particuliers. Donc c'est un petit peu moins embêtant que si l'on vend directement à un institutionnel. Mais Oui, on ne peut pas aujourd'hui raisonnablement collecter ce que l'on a envie de collecter si on ne fait pas appel à des réseaux et notamment des contrats d'assurance.
Je vous dis ça parce qu'il y a d'autres SCPI qui sont lancés tout récemment, encore plus récemment que vous, qui ont fait le choix de ne pas être distribués par des réseaux d'assurance et qui ont mis en place une stratégie de gestion du passif avec des gates, des obligations de détention, etc. Donc c'est ma question, en fait, quels sont aujourd'hui vos principaux concurrents ? Est-ce que ce sont les nouvelles SCPI, ou est-ce que ce sont finalement d'autres placements plus financiers, je pense à des produits structurés par exemple, et combien de temps cette concurrence peut-elle durer ?
J'aimerais
avoir la réponse.
J'aimerais pouvoir répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une vraie concurrence, notamment des produits structurés, bien évidemment, parce que les taux de rendement annoncés sont évidemment très alléchants. Après, c'est pas du tout le même produit. On a la chance d'avoir un produit, la SCPI, qui peut répondre à énormément d'objectifs de clients. Ça peut être évidemment de la retraite, ça peut être de la préparation de retraite, ça peut être de la succession, ça peut être plein de choses. Et puis ça peut être souscrit sous différentes formes, pleine propriété, démembrement.
Je précise quand même juste, parce que on l'a pas évoqué, mais que votre SCPI est sans droit d'entrée, enfin sans commission de souscription, donc ça différencie un peu votre SCPI des autres qui se sont lancés sur le marché. Il nous reste 30 secondes, je voulais qu'on parle des autres activités d'Axipit. Je crois que vous avez en projet le lancement d'un nouveau fonds destiné aux investisseurs professionnels.
Absolument, ça a d'ailleurs été notre premier investissement, c'est des fonds professionnels spécialisés investis sur de la value-add, donc de la création de valeur, sont des fonds courts, des fonds fiscaux et qui peuvent bénéficier notamment du 150-0 BTR, les professionnels comprendront.
Les fameux 150-0 BTR.
Voilà, et donc c'est un fonds qui va être lancé d'ici la fin du mois, ou en tout cas tout début du mois prochain.